philo. Jusqu'à 21h, Henri Marc Mutel à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Philippe Duclos à la console. Joël Proust est ce soir notre invitée. Elle est philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, membre de l'Institut Jean Nicot ainsi que du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et elle publie un livre intitulé « Pensez vite ou pensez bien » avec un joli point d'interrogation qui est publié chez Odile Jacob.
France Inter. L'heure philo. Patricia Martin.
Bonsoir Joël Proust.
Bonsoir Patricia Martin.
C'est une mise en garde à laquelle vous nous invitez dans cet essai à le lire. On se rend compte que d'abord penser ne va pas de soi, en tout cas pas autant qu'on pourrait le croire, et qu'une foule d'éléments qui viennent divers et variés, hein, qui peuvent venir nous perturber, interviennent dans le processus de nos pensées. En fait, vous nous invitez à nous observer nous-mêmes. C'est ça, à nous regarder en train de penser.
Oui, ce qui m'intéresse, c'est en particulier comment nous décidons de ce qui va nous intéresser. Pourquoi nous nous engageons dans un certain bouquin, pourquoi est-ce que nous lisons un article plutôt qu'un autre, pourquoi nous aimons nous informer de telle ou telle manière, ça vaut aussi en particulier de vos auditeurs. Donc ça, c'est des décisions que prend le cerveau, mais il le prend sur la base d'un certain nombre de sentiments, qu'on appelle les sentiments métacognitifs.
Ça veut oui, c'est dire ça, c'est la métacognition. Oui. Hein.
Le plaisir, la facilité de traitement, en même temps que le rendement de ce traitement. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'avoir, de recevoir une information intéressante en ouais. fonction de ses attentes.
Mais ne me dites pas que nous ne pensons que parce qu'il y a du plaisir, parce qu'il y a des pensées évidemment qui sont tout à fait déplaisantes.
Alors oui, c'est vrai, mais il y a un plaisir intrinsèque à apprendre. Ça, c'est vraiment très important, c'est démontrer. Naturellement, ce plaisir intrinsèque d'apprendre, dans certains cas extrêmes, peut être mitigé par un très grand déplaisir d'apprendre une mauvaise nouvelle. Mais ce qui est quand même positif pour notre espèce, c'est que le plaisir intrinsèque d'apprendre, c'est-à-dire l'envie vraiment d'acquérir des connaissances, c'est quelque chose qui est partagé par tous.
Et ça veut dire qu'on défriche en quelque sorte un champ que l'on ne connaissait pas. C'est ça le plaisir d'apprendre.
Exactement, c'est le fait d'acquérir des connaissances qui sont pertinentes pour soi, bien sûr.
Étienne Cochelin, il dirige le laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles à l'École normale supérieure.
On cherche à comprendre comment le fonctionnement du cerveau produit la pensée humaine. Il y a deux grandes thématiques qui m'intéressent beaucoup. C'est la question du libre arbitre, c'est-à-dire ce qui fait que à tel moment on va plutôt prendre telle décision ou telle autre décision. Qu'est-ce que ça veut dire d'être libre? Qu'est-ce que ça veut dire d'être autonome, etc. L'autre grande thématique, c'est la créativité. On pourrait dire aussi l'intuition. C'est-à-dire que dans des situations inattendues, on est obligé de faire preuve de créativité, justement, pour trouver des solutions. Et donc, comprendre comment le cerveau arrive à générer ces nouvelles solutions, c'est chose qui est pas évident à comprendre. Donc, il y a un gros travail à faire derrière. Et ça, je trouve que c'est des sujets passionnants, la liberté et la créativité.
Passionnant, effectivement, d'imaginer combien la pensée est productive, Joël Proust.
Oui, alors ce qui est peut-être, il faut mettre en garde les auditeurs, sur le sens du mot « liberté ». Un neuroscientiste comme Étienne Cochelin ne pense pas que nous pouvons faire n'importe quoi à tout moment en fonction d'une espèce d'indétermination. Non, au contraire. Mais ce qu'il étudie, c'est ce qui nous permet d'utiliser notre information pour trouver la solution optimale, étant donné ce que nous connaissons et étant donné ce que nous avons en face de nous.
Et c'est là qu'on est créatif, en fait.
Et alors, bien sûr, plus on ouvre les alternatives, en pensée, plus on est capable d'envisager de solutions et plus on va réussir à développer des solutions innovantes, évidemment.
Les philosophes s'appuient de plus en plus sur les sciences cognitives. C'est d'ailleurs pas si nouveau que ça, mais disons qu'il y a quand même une ouverture interdisciplinaire de la philosophie aux sciences qui est exponentielle, en tout cas.
Oui, alors c'est un mouvement qui a commencé aux États-Unis, on appelle ça le naturalisme philosophique. C'est simplement le fait que le philosophe se situe au même niveau que les autres savoirs et donc s'en sert dans sa propre réflexion. Ça, c'est un mouvement qui a connu quand même une grande expansion maintenant de par le monde. Mais ça a ses exigences, c'est-à-dire que ça demande...
C'est-à-dire
Il faut continuer à lire beaucoup de philosophie pour pouvoir en écrire soi-même.
Ouais. Mais c'est ce que vous faites.
Mais oui, mais il faut aussi lire des neurosciences, de la psychologie, de la biologie, enfin tout ce qui peut être pertinent pour le sujet qu'on traite.
Mais est-ce que vous pourriez dire, Joël Proust, que précisément neurosciences, sciences cognitives, psychologie, philosophie, même combat ?
Pas tout à fait.
Pourquoi ?
Non, parce que le but des philosophes, c'est d'abord de construire une conception, évidemment rationnelle, hein, mais une conception qui est justement interdisciplinaire, qui n'est pas fondée sur une seule source d'information et qui en même temps est fidèle à ses propres traditions conceptuelles. Mmh. Il y a quand même une riche capacité chez les philosophes de définir, de contraster, donc ça c'est très important. Et sans parler évidemment de leur liberté, c'est le cas de le dire, leur créativité en matière de nouvelles façons de justifier ces affirmations.
Mais ça etc. veut dire que vous n'auriez peut-être pas pu philosopher de la même manière que vous le faites maintenant il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans.
Ah oui, oui, ça c'est évident. On doit évidemment reconnaître l'historicité de la réflexion philosophique, à mon avis. Mmh. Quoi qu'il y ait certains résultats qui remontent à des siècles et qui restent encore très très importants, malgré tout, il y a aussi beaucoup de données nouvelles qui nous obligent à repenser notre conception, et en particulier, c'est le cas de l'action.
Ouais.
L'action cognitive, celle dont je traite, mmh. qui est, c'est-à-dire cette capacité de décider ce qu'on va faire de sa pensée.
Est-ce que vous pensez qu'à la fin de cette heure passée ensemble, précisément, nous penserons mieux ?
Je crois qu'on n'arrête pas de penser mieux si on prend le bon recul critique. Hein. Tous autant qu'on est, on a besoin de temps en temps de reconsidérer nos manières de faire, nos habitudes cognitives en particulier.
Pourquoi le train-train de la pensée, c'est ça ?
Oui, il y a des train-trains quotidiens qui nous enferment au bout d'un moment, en particulier les train-trains cognitifs.
C'est-à-dire, quel exemple pourrait-on
donner ? C'est-à-dire, par exemple, choisir toujours la même source d'information lorsqu'il s'agit de désambiguer une situation, d'aller par exemple toujours sur le même site internet, ou bien quand il s'agit de s'informer sur les nouvelles, aller toujours vers une seule et même source, sans penser que peut-être il y a d'autres perspectives qui pourraient enrichir votre point de vue sur la situation.
Et vous pensez que c'est une tendance actuelle qu'on a ça ? On parlera tout à l'heure hein, des écrans, des fake news et de tout le poids, effectivement, que tout ça fait peser sur nos épaules. Mais on a plutôt tendance à se réserver une sorte de moule intérieur et à y rester élevé parce que c'est plus confortable.
Mais oui, mais c'est pas irrationnel de faire ça et ça s'est toujours fait parce que c'est à l'intérieur de ce moule que vous allez pouvoir économiser vos forces pour avancer. Mais ceci dit, ça a des limites, un moule. Hein. De temps en temps, il faut en changer parce que ça vous empêche justement d'avoir accès à d'autres formes, à d'autres arguments, à d'autres sources d'informations.
Courtney Barnett sur France Inter, un extrait de son nouvel album. Si vous voulez la voir sur scène, sachez qu'elle sera très bientôt en tournée. Regardez, elle viendra peut-être pas loin de chez vous et ça vaut la peine.
Looking forward to the day.
Patricia Martin sur France Inter.
Et alors, ce qu'on a longtemps pensé, c'est qu'au fond, cette organisation du cerveau, c'était comme une espèce de pâte à modeler ou de glaise, pour prendre une métaphore qui était très souvent utilisée, et qui était en quelque sorte modelée par l'environnement, et en particulier par l'environnement socio-culturel. Alors, je crois qu'une des conséquences du développement des sciences cognitives a été de rendre cette image totalement inacceptable. L'environnement ou la culture ou la société n'agissent pas sur le cerveau humain ou sur la pensée humaine comme des forces qui simplement modèleraient une glaise. La pensée humaine, la capacité mentale, le travail mental, la connaissance sont quelque chose de beaucoup plus dynamique et d'actif que ne peut l'être une glaise, mais qui en même temps donc sélectionne de façon beaucoup plus dramatique l'information qu'elles sont susceptibles de traiter, l'organise en fonction de structures préalables d'anticipation qui sont déjà construites pour une part dans l'architecture même du cerveau. Donc il y a un certain nombre de contraintes fortes qui pèsent sur qu'est-ce qui est apprenable par un être humain.
Dan Sperber, il est anthropologue, linguiste et chercheur en sciences cognitives. Joël Proust, le cerveau n'est pas de la glaise.
Ah non, je trouve que là, Dan Sperber a vraiment très bien présenté les choses. Et cette notion d'anticipation est devenue depuis une dizaine d'années le centre de recherche intense en neurosciences. L'idée de codage prédictif, c'est-à-dire que le cerveau, ce qu'il fait tout le temps, c'est de préparer des prédictions pour l'avenir. Donc, à chaque fois que vous baladez,
il anticipe,
vous
écoutez, en quelque sorte.
Il anticipe ce qu'il pourra faire s'il se trouve dans telle et telle situation où il y a tel et tel indice qui est présent. Donc ça, c'est vraiment absolument capital, et en particulier pour ce qui concerne l'action cognitive, c'est grâce à tous ces indices, même la manière dont un texte est écrit, c'est la graphie, c'est ça qui va, entre autres, prédire la capacité de traiter facilement ce texte ou pas, et le type d'information. Là, très vite, on analyse des séquences de quelques secondes. Le cerveau, naturellement, le cerveau analyse pour voir s'il y a un retour d'information important ou pas. Donc, s'il s'ennuie, le cerveau, il rejette. Vous voyez, non, c'est très intéressant parce que c'est le cerveau qui fait toutes ces prédictions de façon, pour nous, inconsciente. Hein. Mais ce que nous avons, nous, en conscience, c'est le sentiment qui résulte de cette analyse brève.
Et dans quel environnement s'ennuie-t-il, notre cerveau ?
Eh bien, il s'ennuie lorsque il n'a rien à apprendre de cet environnement. Lorsqu'il n'y a rien qui se passe de nouveau, que tout est récurrent. Si par exemple un élève est dans une classe inférieure à son niveau, il va tout le temps prédire ce qu'il va entendre, et ça c'est un ennui suprême, c'est presque une désagréable, aversif, on a envie de se sauver et de faire autre chose de son cerveau. Donc ça, c'est vraiment formidable, ça nous sauve la vie d'avoir cette sorte d'instinct cognitif, cette curiosité pour du nouveau, pour quelque chose, pour acquérir des choses qu'on n'a pas encore. Ça, le cerveau sait très bien le faire.
Et ça, vous le dites, vous le montrez très bien dans votre essai, Joël Proust. Ce qui est déterminant, effectivement, pour tout un chacun, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage, ça peut être très, très petit, évidemment, pour le bébé, mais après, c'est l'école, en fait. Et ça, c'est vraiment pour toujours, je dirais. Si on rate ce moment-là, c'est difficile de rattraper. Hein.
Alors, en effet, il y a des périodes particulièrement sensibles. Si on les rate, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal pour récupérer l'information qu'on n'a pas pu acquérir à temps. Mais enfin, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir donner à tous les élèves les moyens de progresser. Parce qu'on commence à comprendre ce qui permet à l'élève de s'approprier une tâche et d'y progresser. On comprend quels sont les sentiments qui interviennent, quels sont les sentiments qui vraiment relèvent de l'analyse de l'information, et puis les sentiments qui relèvent de biais sociaux, par exemple le sentiment d'être une fille et donc forcément pas bonne en maths, ou être le sentiment d'être d'une classe modeste et donc c'est pas le genre de truc que je peux faire. Donc toutes ces anticipations socio-cognitives viennent s'ajouter aux anticipations proprement informationnelles, liées au contenu de connaissances, et elles vont déterminer les motivations des élèves.
Et on apprend ce qu'on est en capacité d'apprendre, en fait ?
Exactement. D'ailleurs, l'étude de la curiosité montre que c'est ça, être curieux. C'est découvrir qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on peut l'apprendre. Mais si, par exemple, vous êtes en présence de quelque chose qui est trop difficile pour vous, vous n'allez pas vous sentir curieux de l'apprendre.
Donc il faut apprendre à avoir envie d'apprendre aussi ?
Alors, plus on sait cette chose, et plus on a envie d'apprendre, bien sûr. Hein. Mais oui, il y a quelque chose à faire pour donner aux enfants d'avoir envie d'apprendre, c'est de les motiver, de leur donner un cadre d'apprentissage très bienveillant, très confortable pour eux, c'est-à-dire qu'ils avancent à leur rythme, et surtout qu'ils ne soient pas marqués par des périodes de jugement critique du style « mauvaise note ». Ça, pour l'élève en difficulté, c'est vraiment quelque chose qui va rendre son apprentissage encore plus difficile.
Mais ce que vous dites là, Joël Proust, ça en fiche un coup tout de même à tout ce qui est inné acquis et aussi à la méritocratie. Non ? Ou je me trompe ?
Alors la notion de méritocratie, c'est devenu en effet une notion un peu compliquée parce que on a longtemps pensé qu'il suffisait de faire un effort pour bien travailler. Et donc, il s'agissait de récompenser les élèves qui font des efforts. Mmh. Mais ce qu'on ne voyait pas, c'est que la notion d'effort elle-même n'est possible qu'à l'intérieur d'un apprentissage antérieur. Et donc, même en faisant beaucoup d'efforts, des élèves particulièrement vulnérables ou des élèves qui ont un handicap ne parviendront pas à atteindre le même niveau que leurs camarades. Et donc là, il y a quelque chose de terrible dans cette notion de « faites des efforts, vous pouvez », parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Et donc, les élèves sont persuadés que s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils sont particulièrement bêtes, alors que ça n'a absolument rien à voir. Il y a des trajectoires d'apprentissage, et elles peuvent être beaucoup plus longues pour les élèves qui ont commencé plus tard, avec moins de moyens autour d'eux.
Et on peut prendre très vite des habitudes cognitives qui font que si on a l'habitude de se dire « ça, c'est pas fait pour moi, c'est trop difficile, j'y arriverai jamais », ça reste.
Exactement. Ça, ce sont des habitudes terriblement nocifs pour les élèves parce qu'ils ont pris l'habitude de se dire « oh, c'est des maths, c'est pas pour moi, oh, c'est de la science, ça m'intéresse pas », sans avoir eu l'occasion de découvrir ce qu'ils auraient pu justement en tirer.
Non. Autre habitude néfaste à vous lire en tout cas, c'est à la fois bon, c'est Internet, c'est les réseaux, ça c'est catastrophique et c'est très grave ce que vous dites là. Et là, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du Conseil scientifique de l'Éducation nationale et que vous y animez un groupe de travail où on met au point précisément des exercices scientifiques pour étayer la compréhension profonde des contenus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à Internet, au réseau? Par exemple, vous expliquez que quand on lit sur son écran, on ne lit absolument pas de la même manière le contenu que quand on le lit sur un papier.
Oui, c'est très étonnant. C'est un résultat qui surprend tout le monde et qui s'applique à tout le monde, aux adultes comme aux enfants, enfin ceux qui savent lire. Et c'est ennuyeux parce que ça s'accompagne en plus du sentiment de comprendre de façon illusoire. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le sentiment de compréhension, c'est un sentiment métacognitif qui dépend de la vitesse de traitement. Or, quand on est sur écran, on fait une lecture plus superficielle, donc plus rapide. On en tire l'impression de comprendre, mais on ne comprend pas. On a seulement cette illusion de compréhension qui vient d'une lecture rapide.
Donc ça ne s'imprime pas dans le cerveau, en quelque sorte.
C'est-à-dire qu'on
a... C'est une pensée presque cernée, empêchée, en quelque sorte, bloquée.
C'est ça, c'est une pensée qui ne va pas jusqu'à la représentation des situations, jusqu'à leur simulation concrète, hein, ce qui est quand même un facteur, on le sait aujourd'hui, de compréhension profonde.
Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'écran? Ou très peu d'écran? Parce que comment est-ce qu'on s'en protège, nous tous les adultes, et comment est-ce qu'on protège nos enfants? Parce qu'évidemment, j'imagine qu'il y a plus d'un parent qui est en train de nous écouter et qui s'arrache les cheveux. Là.
Non, il y a des façons de faire qui permettent justement de surmonter ce problème. En particulier, déjà, prévoir des documents qui ne font pas plus d'une page. Parce que s'il y a plusieurs pages, alors là, ça devient très compliqué pour les jeunes élèves de faire le lien entre ce qu'il y avait avant et ce que j'ai maintenant sous les yeux. Il y a déjà cette recommandation. Mais aussi, il y a d'autres recommandations, par exemple, de ne pas donner des textes trop faciles. Parce que plus un texte paraît superficiellement facile et moins je vais me concentrer sur les détails du texte, Donc, permettre en particulier au lecteur d'avoir à reconstruire le sens du texte, ça c'est vraiment une bonne chose, et lui donner des exercices, si c'est un élève, pour vérifier qu'il a bien compris au bon niveau. Donc, ce sont des courts exercices, hein, qui sont proposés pendant qu'il est en train de travailler sur écran.
Et qui sont acceptés facilement ?
Très, très facilement.
Par l'impétrant, parce que
les élèves adorent ça, en fait.
Ouais, c'est comme un jeu.
C'est comme un jeu, c'est comme un quiz, et ça leur donne leur sens de ce qu'on appelle le sens de l'efficacité personnelle. C'est-à-dire qu'ils sentent là qu'ils sont des agents de leur propre apprentissage, et ils aiment beaucoup ça. Si vous voulez, si vous opposez le style de cours où ils sont simplement des auditeurs et
passifs en quelque sorte,
passifs, et un cours où on les sollicite constamment, les élèves préfèrent de beaucoup être sollicités. Et sur le plan pédagogique, c'est évidemment une recette d'apprentissage au bon niveau, à celui qui est recherché par l'enseignant.
Alors, autre chose aussi qui joue un très très grand rôle, un rôle très important dans la pensée, ce sont les émotions. C'est vraiment un rôle déterminant. Les émotions, ça peut être très bien, on peut pas penser sans émotions, mais ça peut aussi être un poison. Alors moi, je croyais que, en cartésienne, peut-être que je suis trop, mais que les émotions ne devaient pas précisément occulter la pensée. Or, elles font partie de la pensée.
Absolument. Ce qui est amusant, c'est que Descartes, qui était l'un de ceux qui ont précisément défendu cette opposition, il parle d'idées claires et distinctes. Or, qu'est-ce que c'est la clarté et la distinction ? On le sait aujourd'hui, ce sont des sentiments métacognitifs qui eux-mêmes sont produits par cette fameuse facilité de traitement. Donc il y a bien entendu chez Descartes une autre dimension que la psychologie, hein. Mais quand il dit que les émotions n'ont rien à faire, il se trompe, parce que si nous n'avions pas des émotions pour détecter les idées claires, des idées confuses, nous ne pourrions pas avancer dans la pensée du tout. Donc les émotions jouent bien un rôle.
Et on peut étudier ces émotions de façon rationnelle ?
Les scientifiques le peuvent, évidemment, puisque l'objectif des études métacognitives, c'est de comprendre de quelle nature est tel et tel sentiment métacognitif, qu'est-ce qu'il encourage, qu'est-ce qui lui sert d'indice, et aussi dans quelles conditions il peut être déclenché de façon illusoire.
Gérard Bronner, lui, il est sociologue.
On sait, toutes les études le montrent au cours du XXe siècle, d'abord par la télévision et plus encore aujourd'hui par nos smartphones, nos ordinateurs. Ce sont des objets qui sont en quelque sorte les armes du crime idéal pour capturer notre attention. Ce ne sont pas les objets qui sont coupables, ce ne sont pas les écrans qui sont coupables en soi, ce sont simplement des fenêtres sur ce qu'il se produit, sur ce que j'appelle le marché cognitif, le marché des idées. Et ce qu'il se produit, tout simplement, et c'est pour ça que je pense que c'est historique, voire même civilisationnel, c'est un alignement inédit entre toutes les offres possibles et toutes les demandes imaginables. Cet alignement entre l'offre et la demande, il produit en quelque sorte, par exemple dans le domaine des idées, des phénomènes de démagogie cognitive, c'est-à-dire que l'offre d'information, elle tend à s'indexer de plus en plus sur la demande, mais la demande telle qu'elle est révélée par nos obsessions mentales. Donc ce dévoilement que je désigne dans mon titre « apocalypse cognitive », car vous avez compris que je n'annonce pas la fin des temps, mais que je parle de l'étymologie du terme, c'est-à-dire la notion de révélation. Eh bien, cette révélation, c'est que les traces que nous laissons dans le monde numérique, elles dressent en quelque sorte un visage caricatural certes, mais comme dans toute caricature, il y a un peu de vérité, un visage, une ontologie, une anthropologie, je dirais plutôt, de l'humanité, une anthropologie réaliste. C'est-à-dire nos compulsions, nos obsessions mentales et la facilité avec laquelle nous pouvons éventuellement nous abîmer, par exemple dans la crédulité qui est une seule des facettes de ce polyèdre complexe qu'est l'apocalypse cognitive.
Démagogie, uniformisation, crédulité, qu'est-ce que vous prenez là-dedans pour en parler, Joël Proust ?
Ah, je prends tout, je trouve que c'est extrêmement riche ce que vient de dire
Gérard Bronner. Qui d'ailleurs, lui, propose même de faire de l'esprit critique une grande cause nationale. Il l'a dit il n'y a pas très longtemps, précisément chez nous, sur France Inter.
Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment essentiel. Ouais. Il y a juste un petit point sur lequel je ne suis pas forcément d'accord avec lui, c'est sur le rapport entre l'offre et la demande. Ouais. Je pense que les réseaux sociaux, par exemple, et toutes les, par exemple, Airbnb, TripAdvisor, toutes ces plateformes commerciales qui vous demandent de produire un jugement impulsif, finissent par, en plus évidemment de ce qui se passe sur Facebook et les autres réseaux sociaux, par vous construire votre propre impulsivité. Ça devient une habitude cognitive.
Et dont on se rend même plus compte, en fait.
Absolument. Donc, on se libère de toutes les interdictions traditionnelles.
On n'a pas d'options.
Vous vous rappelez, tourne sept fois ta langue dans la bouche.
Avant de parler.
C'est fini. On ne tourne plus rien du tout dans sa bouche. On parle tout de suite, on juge tout de suite, on fait des likes. Et ça, je pense que c'est extrêmement dommageable pour le cerveau. C'est pas seulement pour la circonstance présente sur laquelle je dois juger, avec toutes les conséquences qu'on sait pour le harcèlement à l'école, etc. Mais c'est une façon de penser qui finit par s'imposer comme étant la bonne manière de penser entre nous. Donc il y a ce concept d'entre nous, naturellement, qui est très important et très risqué. C'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller.
Ça, sur les réseaux, ils y vont à fond, hein.
Oui, alors il y a ça, et puis il y a aussi cette facilité de tomber dans l'impulsivité en permanence et d'en tirer un plaisir collectif, et donc renforcé.
Et l'influenceur, par exemple, qui est l'exemple type, on peut dire, de la personne qui joue précisément sur ses impulsions, sur nos réactions, sur nos émotions, sans avoir véritablement d'arguments réels à proposer.
Ben, l'influenceur, il a une stratégie. Il n'est pas impulsif lorsqu'il est influenceur. Il sait très bien ce qu'il fait.
Lui, oui, mais il veut déclencher une impulsion.
En effet, ce qu'il veut déclencher, ce sont des achats compulsifs, ce sont des pensées automatiques, des associations toutes faites, etc. Et ils y parviennent d'une façon déconcertante. Enfin, c'est pour ça que je pense que, à l'heure actuelle, nous avons une élévation des biais sociaux, une élévation des conduites impulsives. Ce n'est pas seulement qu'ils exploitent nos biais traditionnels, c'est qu'ils en créent toujours davantage. On le voit bien, par exemple, dans le cas du raisonnement post-vérité, des jugements politiques à l'emporte-pièce, du racisme qui continue à prospérer. Tout ça, ce sont des jugements impulsifs.
Mais quand on parle, Joël Proust, par exemple, de l'esprit critique qu'il est bon de cultiver, l'esprit critique, c'est pas l'esprit de contradiction. C'est un raisonnement critique, en fait.
Oui, c'est ça. En effet, c'est un raisonnement. Et c'est un raisonnement qui est ouvert à l'argumentation contraire. Donc, ce qui est formidable comme un dispositif pédagogique, c'est de créer des débats dans la classe entre des groupes d'élèves qui vont chacun défendre une position, mais cette position a été déterminée a priori comme celle qu'ils auraient à défendre. Donc, c'est pas la leur. C'est vraiment une position que l'enseignant a choisi pour eux, et il y a un autre groupe qui défend la position contraire. Et ils vont échanger des arguments. C'est comme ça qu'on construit son esprit critique.
Et qu'on évite, autant faire se peut, d'être manipulé, en quelque sorte.
Absolument, parce que dans cet entraînement critique, on détecte évidemment les mauvais arguments, les ruptures de déductives, etc.
Mais face à la publicité en particulier, face aussi à une persuasion clandestine, disons en général, même on peut aller jusqu'à des slogans qui sont martelés, qui sont répétés, comme ça peut l'être par exemple dans le domaine politique. Là, vous dites attention danger.
Ah bah oui, oui, c'est par définition des illusions de fluence, hein, c'est-à-dire on va très vite traiter un message qu'on a déjà entendu souvent. De plus, vient se mêler à cela l'illusion de consensus, c'est-à-dire on pense que, comme on l'a entendu beaucoup, c'est l'opinion générale. Ça, c'est vraiment une association qui est très très forte.
Et il y a un mot qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle, c'est bullshit. Alors, bullshitter, évidemment, celui qui est, pardon, hein, aux puristes, parce que c'est un anglicisme, mais quand on ment, par exemple, le menteur, c'est pas qu'il ait le nez qui bouge, mais enfin, en général, il sait qu'il ment. Le bullshitter, est-ce qu'il sait qu'il ment? Parce que, en fait, ce qui lui importe, c'est pas la vérité, c'est de convaincre, en fait, non?
Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que
c'est dangereux.
Ce qui importe, c'est extrêmement dangereux.
Il se fiche de la vérité, en fait.
Voilà, il n'est pas dans ce registre-là. Il est dans le registre de « après tout, j'ai bien le droit de parler », hein, qui est le registre d'une sorte d'équivalence entre tout le monde sur le fait d'avoir une opinion. Pourquoi j'aurais pas mon opinion? Tout le monde a une opinion, donc je la dis. Et ça, c'est devenu quelque chose, c'est une sorte de biais social d'égalité portant sur les informations. Or, il n'y a pas d'égalité dans l'information. Hein. Il y a des gens qui ont eu accès à l'information et d'autres qui ne l'ont pas eu.
Et face à cela, il faut avoir adopter une sorte de stratégie. Donc, c'est ce que vous appelez les actions cognitives stratégiques. Ça, vous en parlez dans votre essai.
Oui, alors, qu'est-ce que c'est qu'une action stratégique? C'est une action dans laquelle vous avez un plan, vous avez un objectif et vous vous donnez des moyens.
Ouais.
Alors, tous les plans ne sont pas réussis. Hein. Mmh. Mais déjà, le fait d'avoir construit un plan et de se donner des moyens, ça oblige déjà à ralentir le flux de la décision. Et ça permet donc de prendre en considération davantage de contraintes, davantage de faits. Et c'est la condition pour qu'on finisse par aboutir à des plans d'action efficaces. Mmh. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut toujours le faire, parce qu'il y a des circonstances dans la vie où on doit aller vite. Si vous êtes en forêt et que vous voyez quelque chose qui ressemble à un serpent, vous n'êtes pas en train de dire « allez, c'est pas un serpent ». Non, vous faites l'action qu'il faut, vous l'enjambez ou vous sautez de côté. Et il y a toutes sortes de choses dans la conversation, par exemple, où on rectifie son erreur immédiatement sans avoir à y réfléchir. C'est pas stratégique, c'est impulsif. Mais ça, c'est du bon impulsif. Heureusement qu'on a ces méthodes pour détecter l'erreur immédiatement, avant qu'elle sorte même de notre bouche, et qu'on soit prêt déjà à la réviser.
Joël Proust, vous êtes donc philosophe, et je rappelle que vous publiez un livre chez Odile Jacob, « Pensez vite ou pensez bien ?» Point d'interrogation. Lui, il est docteur en neurosciences et psychologue, c'est Albert Mugheber. C'est un as, comme vous Joël Proust, pour dire que nos cerveaux nous jouent de sacrés tours. À preuve, les fake news.
Alors notre cerveau est attiré par les explications en fait. C'est juste que les fake news, souvent, sont des explications qui sont soit émotionnelles, soit jouent sur les peurs, soit jouent sur les a priori. Donc si moi je crois déjà qu'il va y avoir un complot, c'est plus simple pour moi d'y croire. C'est une explication simple à un événement qui souvent est complètement sort de l'ordinaire. On a tous été choqués quand on a vu Notre-Dame brûler. Et si quelqu'un peut nous dire on sait pourquoi, ça a des vertus rassurantes pour des raisons évolutionnistes. On peut vraiment remonter dans le temps pourquoi on a une appétence pour les stimuli plus émotionnels, parce que l'émotion aussi à la base a pour rôle de communication sociale. Et donc si je vois un congénère qui a une réaction très forte, je me dis peut-être qu'il faudrait que je fasse attention à ça, parce que peut-être qu'il y a un danger que moi je vois pas. Avant les réseaux sociaux, avant Internet, et je sais que ça paraît bizarre, on n'avait pas vraiment besoin de raisonnement critique autant qu'aujourd'hui, parce que l'information était prédigérée, venait de façon quelque part verticale. Avec la multiplication des sources d'information, on a besoin de pouvoir chacun reprendre contrôle de sa propre hygiène mentale quelque part, parce que une démocratie est très forte quand on est dans des désaccords d'opinion. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans des désaccords de faits. Et donc chacun peut créer sa propre réalité et on perd ce socle commun de réalité qui rend une démocratie forte. Une démocratie est aussi forte que le niveau d'information de ses constituants. Et donc quand ce socle commun de réalité s'effrite, ce n'est plus vraiment un débat, c'est un monologue. Et ça polarise des opinions, ça polarise une société et du coup la démocratie est affaiblie.
C'est bien ce qu'il dit, non?
Super.
Joël Proust, qu'est-ce que vous en pensez?
Tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait aussi, j'arrive à ces mêmes conclusions. C'est vrai que nous sommes poussés nous sommes sous l'effet, justement, des réseaux sociaux et des conditions actuelles de la communication hyper rapide, par Twitter, etc. Nous sommes conduits à tout le monde, heureusement pas, mais beaucoup sont motivés à intervenir de façon vraiment puissante dans le débat de tous. Et ils interviennent en se servant donc de ces méthodes bien éprouvées, c'est-à-dire détecter un tricheur, détecter un complot, parce que ce sont des explications faciles à comprendre et très motivantes. C'est-à-dire qu'on est sûr d'attirer l'attention des autres si on commence par parler de cette manière. C'est ce que Dan Sperber appelle la pertinence.
Et de travestir, je vais y arriver, les faits aussi, non?
Ah oui, parce que...
Comme si ça rassurait le cerveau d'avoir une branche sur laquelle s'agripper.
C'est-à-dire, le cerveau est fabriqué de plusieurs types de motivations. Hein. Il y a les motivations sociales et les motivations de compétition, à celui qui va avoir le plus de likes, le plus d'audience. En fait, tout ça est comptabilisé. Ça, c'est très intelligent de la part des réseaux sociaux d'avoir comptabilisé vos soi-disant amis. Donc, il y a cette poursuite d'un avantage social, Donc de capter l'attention d'autrui avec ces hypothèses à trois balles, si je peux dire. Mais par ailleurs, il y a aussi une myriade d'opinions qui vont résulter de cette décision individuelle. Et maintenant, on a cette espèce d'extraordinaire nombre d'échantillons de vues alternatives, de faits alternatifs. Naturellement, tout ça tient pas debout.
Mais ce qui compte, c'est d'avoir raison.
Ce qui compte, c'est d'avoir raison au sens de d'avoir donné son opinion avec force et au point d'avoir capté l'attention de très nombreuses receveurs. Quoi.
Mais qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, Joël Proust, en tant que philosophe, encore une fois, de ce feu d'artifice, en quelque sorte, triste feu d'artifice, mais qu'on a eu avec le Covid ? Là aussi, on savait plus où donner de la tête. En même temps, tout pouvait être dit. Tout peut toujours être dit, d'ailleurs, sans grande rationalité, quelquefois.
Écoutez, quand on y réfléchit avec un peu de recul, il me semble qu'il n'y a pas eu tellement de feux.
Ouais.
Le feu d'artifice était quand même réduit. Il n'y a pas eu tant que ça d'hypothèses considérées, de bullshit hypothèses, comme pour reprendre le terme de tout là. Il y a quand même des centres de qui ont bien résisté, me semble-t-il.
Il n'y a pas eu de régression de pour la pensée de ce point de vue-là, de ce que vous pensez, vous, de ça?
Alors, régression, c'est difficile à parler de régression de toute façon, parce que nos impulsivités, elles sont là depuis les Néandertales. Mais nous conservons cette impulsivité qui nous est utile, encore une fois.
Oui, mais nous l'entretenons aussi, forcément.
Mais nous l'entretenons, et bien entendu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec des impulsivités qui sont construites par des moyens commerciaux, politique, etc. On a vu l'influence de Trump, par exemple, sur la post-vérité.
Bah, et il puis a par rapport, même... enfin, pour ce qui est du Covid, c'était un champion.
Et pour exactement. Mais il semble que là, on est dans un schéma un petit peu classique, parce que qui est-ce qui préfère ne pas insister sur les dangers du Covid? Ce sont les personnes qui voudraient que l'économie reste toujours à un niveau élevé. Enfin, c'était l'une des motivations de Trump, je pense. Donc, il y a, ça n'est pas n'importe quoi. Ce sont des intérêts qui se traduisent par des conseils qui sont évidemment scientifiquement infondés. Mais là, il me semble qu'il y a toujours eu ça, à travers les vieux dualismes entre la science et les croyances.
Avec
etc.
une moindre audience, peut-être.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Amadou et Mariam sur France Inter, Je pense à toi. C'est un album compilation qui est sorti en 2005.
Je ne peux rien voir, je ne veux rien savoir.
Je voudrais que nous revenions sur le titre de votre essai « Pensez vite » ou « Pensez bien » avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on est obligé de choisir d'abord ?
Oui, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ouais. Parfois, « Pensez vite », c'est « Pensez bien ».
Bien sûr. Hein ? Donc tout dépend des circonstances, en fait.
Absolument.
Comme l'histoire du serpent dont Exactement. Vous parliez tout à l'heure. Si un serpent menace de passer sous vos pieds, évidemment, il faut penser vite, là.
Donc il y a vraiment opposition entre penser vite et penser bien lorsque je devrais penser profondément et qu'en fait je me contente d'une pensée superficielle qui est rapide. Donc c'est ça le gros problème. Hein, on parlait tout à l'heure de la compréhension superficielle par les élèves de ce qu'ils lisent à l'écran.
Mais c'est aussi par les adultes. Hein,
et par les adultes.
Il y a tellement de choses qui viennent
Absolument.
Par le biais des écrans. Maintenant.
Donc ce sont des compréhensions faciles, rapides. Donc ça, c'est là l'avantage pour le cerveau, c'est qu'il a traité l'information et il peut se consacrer à autre chose. Mais le problème, c'est que lorsque on fait ça tout le temps, on oublie de penser stratégiquement, on oublie ses propres buts, on ne prend pas le recul nécessaire, critique, par rapport à l'information qu'on traite. Donc c'est là que se situe vraiment l'opposition entre le penser vite et le penser bien.
Et est-ce qu'il y a une différence entre le vite et le moins vite, entre la pensée abstraite et la pensée concrète ? Est-ce que la pensée concrète est plus rapide que la pensée abstraite ? Si tant est qu'on puisse faire vraiment la différence entre les deux.
Mais... Oui, en fait on peut maintenant, puisqu'on a des données neuroscientifiques qui nous disent comment on pense. Par exemple, il y a un travail très intéressant qui montre que même des concepts abstraits comme l'arithmétique fait appel à des représentations sensorielles, donc concrètes. Mm-hmm. Naturellement, elles ne sont limitent pas à ces représentations concrètes, mais elles les incluent. Donc on voit bien que la pensée abstraite, lorsqu'elle se construit, prend du temps, puisqu'il faut aller puiser davantage de ressources, davantage de souvenirs très concrets pour les mettre en rapport ensemble et en tirer des inférences.
Et à partir de quel âge pense-t-on ?
Alors là, je pense qu'on peut dire vraiment à la naissance. Ouais. Déjà, le cerveau traite de l'information d'entrée.
Il y a des études là aussi, parce que vous vous appuyez aussi beaucoup sur des études anglo-saxonnes. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Hein.
Oui, mais les Français
les
aussi,
Français
même s'ils publient en français, même s'ils publient en anglais. Si vous voulez, il y a cette espèce
vous publiez aussi beaucoup en anglais vous-même.
Mais voilà, il y a cette espèce de difficulté pour les Français d'être reconnus dans leurs travaux comme étant des travaux de Français parce qu'ils sont ils sont vraiment obligés de publier en anglais hein, puisque c'est une convention internationale que les travaux scientifiques ou disons même philosophiques doivent être publiés en anglais pour atteindre le niveau de professionnalisation requis.
Donc pour en venir à la question précédente, un bébé pense à la naissance, dès la naissance, mais comment est-ce qu'il évalue, un enfant peut évaluer la perception qu'il a ou sa mémoire?
Parce oui, alors c'est peut-être pas des formes de ce genre qui traduisent les premières formes de pensée de l'enfant.
Mais on peut penser avant l'acquisition du langage?
Ah ben oui, heureusement. Oui,
non,
parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses pendant ces deux premières années où l'enfant n'est pas encore vraiment langagier, même s'il commence à comprendre, bien sûr, mais il produit pas grand-chose. Alors qu'en fait, c'est dès la naissance, on sait que les bébés passent le temps qu'il faut dans leur perception pour encoder tel et tel objet. On appelle ça un stimulus. Donc il va passer à autre chose seulement lorsqu'il aura fini d'encoder ce qu'il doit encoder.
Donc il peut à la fois trouver de l'intérêt d'une part et se mettre à s'ennuyer d'un autre côté.
Alors oui, en effet, si vous donnez si vous donnez pas à un bébé suffisamment de variété, il va faire il va peut-être pas en avoir conscience encore parce que les sentiments d'ennui, c'est quelque chose qui demande du temps avant de se calibrer, mais son cerveau va pas faire grand-chose de son environnement. Donc il est très important de fournir à des bébés, même à des nouveau-nés, de leur fournir des stimulations pas forcément uniquement visuel, naturellement, puisqu'au départ, le bébé est beaucoup plus sensible, par exemple, au tactile et à l'auditif. Mais lui donner une multitude de choses à encoder pour qu'il se construise une représentation de l'environnement.
Mais un bébé peut demander, par exemple, de l'aide pour retrouver cette délicieuse girafe qui lui procure tant de plaisir. Ça, il peut le faire ?
Oui, alors ça, c'est très intéressant, parce que s'il demande de l'aide, c'est qu'il sait qu'il ne sait pas. Donc c'est de la métacognition. Donc en effet, il y a des travaux de mes collègues Sid Quider et Louise Goupil qui ont mis en évidence le fait que les enfants, bien avant le langage, sont capables de demander de l'aide seulement quand ils ne savent pas où se trouve un objet. Donc ce qui prouve qu'ils ont une forme de pensée sur eux-mêmes, sur leur propre pensée, mais qui n'est pas évidemment une pensée verbale, qui n'est pas non plus une pensée conceptuelle. Ce sont des sentiments qui leur permettent de se dire « là, j'y arrive pas ». Et donc, la bonne stratégie, c'est de demander.
Stanislas Dehaene, il est psychologue spécialisé en neuropsychologie. Alors, il s'est employé à populariser ses travaux qui portent sur les représentations mathématiques. Vous parliez tout à l'heure des mathématiques, sur la lecture et le langage, mais aussi la conscience.
Nous sommes la seule espèce à faire attention à ce que l'autre est capable d'apprendre. Il y a une discussion, je cite d'ailleurs dans le livre ce petit papier de Science qui suggère que les mangoustes enseignent. C'est à fait l'objet d'un article dans Science parce que c'est tellement exceptionnel, normalement les animaux n'enseignent pas. Et là, les auteurs argumentaient que oui, les mangoustes enseignent parce qu'elles montrent à leurs petits des scorpions. Il s'agit d'apprendre à décortiquer un scorpion pour le manger, c'est assez dangereux. Et alors, les mangoustes adultes, apparemment, amènent progressivement à leurs petits des scorpions d'abord morts, puis ensuite un peu à moitié vivants, et enfin, en quelque sorte, font une sorte de progression pédagogique. Sauf qu'il n'y a absolument aucune preuve que les mangoustes font attention à l'état d'esprit de l'apprenant. Ce qui est caractéristique de l'espèce humaine, c'est un enseignant qui réalise que l'élève ne sait pas quelque chose, qui a donc une théorie de l'esprit de l'élève, et qui va volontairement présenter des dispositifs pour changer cet état d'esprit. La théorie de l'esprit, c'est typiquement la capacité de savoir que quelqu'un ne sait pas, savoir que quelqu'un sait, et puis alors dans le sens inverse, l'élève sait que l'enseignant sait qu'il ne sait pas. Et c'est récursif. Donc ça veut dire que l'élève va interpréter certains des gestes de l'enseignant comme désirant lui enseigner quelque chose.
Vous connaissiez, Joël Proust, cet exemple de la mangouste ?
Oui, je trouve ça.
Parce que vous évoquez des animaux hein, dans votre essai.
Oui, j'ai travaillé avec des chercheurs en primatologie pour justement essayer de comprendre la métacognition chez les non-humains. Et nous avons maintenant tout un ensemble de données impressionnants, non seulement sur les grands singes, mais même sur les petits singes, les rhésus par exemple, et sur d'autres espèces comme les rats. Les rats aussi ont une métacognition. Et d'ailleurs, on a beaucoup appris sur les processus qui sous-tendent la métacognition en allant regarder le cerveau en train de se rappeler chez le rat, le cerveau en train de discriminer des perceptions chez le rat.
Un principe qui est important, évidemment, dans la pensée, c'est celui de l'incertitude. C'est même fondamental et presque, on pourrait dire, un instrument de mesure de l'intelligence. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est difficile à acquérir, ce principe d'incertitude ? Qu'est-ce qu'on aime être au contraire rassuré ?
Alors, l'incertitude, c'est d'abord quelque chose d'objectif. Dans la nature, il y a de l'incertitude.
Oui. Hein.
Mais il faut aussi un cerveau adapté à cela pour avoir une incertitude subjective. C'est-à-dire, même si l'environnement est toujours le même, moi, je n'en sais pas grand-chose de cet environnement. Donc, il faut que je sois capable de ressentir cette ignorance. Et là, on sait aujourd'hui comment l'incertitude se produit sur le plan neuronal. quels sont les signes dont le cerveau se sert pour se sentir incertain.
Et la concentration, quel est son rôle dans la pensée? Parce que on en parlait un petit peu déjà tout à l'heure, mais si on zappe, on pense mal.
Oui, alors qu'est-ce que c'est que la concentration? C'est davantage d'effort qui est attribué à une tâche précise parce que, sur la base de son importance, on estime qu'elle mérite cette attention. Alors ça, évidemment, il y a toute une économie de l'effort que chacun de nous gère en permanence et qui détermine, évidemment, de façon absolument massive, nos capacités d'apprendre.
Et vous, Joël Proust, est-ce que vous diriez que vous êtes sous contrôle incessant? Est-ce que vous avez de temps en temps, comme ça, des pensées vagabondes?
Ah, mais ça, c'est heureusement, parce que le vagabondage de la pensée, aujourd'hui, on considère que c'est une forme d'activité qui n'est pas... elle, contrôlée de la même façon que les actions dont on parlait tout à l'heure, impulsives, habitudes et stratégies. Mais c'est une forme d'activité neuronale dont nous avons absolument besoin, apparemment, ne serait-ce que pour déployer une inventivité, une créativité.
Mais il peut vous arriver d'avoir une impulsion comme ça de la pensée?
Ah oui.
Tout le temps?
Ah oui, j'en ai beaucoup. Ah oui, oui. Ouais. C'est-à-dire des idées nouvelles, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, des nouvelles dans la mesure où ça peut être une impulsion. Tout à coup, ça déboule sans prévenir.
Mais en fait, se débouler sans prévenir, c'est pas exactement la pensée impulsive.
C'est
parce qu'en fait, c'est souvent le produit d'une réflexion qui dure depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours.
Et tout à coup, ça se déteint.
Et d'un seul coup, ça sort. C'est ce sentiment de ce qu'on appelle une intuition. En fait, c'est le produit d'un raisonnement sous-jacent qui s'est fait inconsciemment depuis longtemps.
Pensez vite ou pensez bien. Merci à vous, Joël Proust, d'être venu nous en parler ce soir. C'est chez Odile Jacob. La semaine prochaine, nous parlerons du vin des philosophes, en compagnie de Grégory Darbadie.